Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique en ce lundi est Antoine Kiefer. Il est responsable du Rassemblement National de la circonscription de Dinan. Et il est avec nous en direct dans la matinale. Je l'en remercie. Bonjour et meilleurs vœux.
Bonjour et meilleurs vœux à tous, à vous et aux auditeurs.
Alors nous allons parler de politique ce matin comme on le fait chaque jour au micro de la matinale. Marine Le Pen est en déplacement à Mayotte jusqu'à mardi. Elle va pour soutenir, en tout cas l'a-t-elle dit, les Mahorais, et puis mettre un petit peu la pression sur le gouvernement, il faut bien le dire. Est-ce que les mesures proposées, en tout cas les mesures qui vont être proposées par le gouvernement, semblent assez suffisantes? Est-ce que le déplacement du président de la République, le déplacement de François Bayrou, le Premier ministre, sont plutôt des signes positifs, ou est-ce qu'il reste beaucoup à faire à Mayotte?
Alors le déplacement du président de la République a été quand même un signe assez catastrophique dans sa communication et son attitude. C'est le premier point. Ensuite, sur les propositions, nous, ce que nous attendons, ce sont des actes, pas des propositions. Combien de propositions ont été faites depuis tant d'années et ne sont pas tenues? Donc effectivement, Marine est allée à Mayotte pour constater les dégâts après le passage du cyclone, mais aussi des manquements qui étaient présents bien avant le passage du cyclone, et que l'État faisait mine de ne pas voir. Ça les arrangeait bien. Malheureusement, il a fallu un cyclone pour pouvoir mettre tous ces problèmes à jour. Et la réalité aujourd'hui, c'est que c'est un département français qui n'a, semble-t-il, pas forcément la totalité du réseau électrique qui est remis en état. Le réseau d'eau non plus. Et quand on parle d'électricité, ce n'est pas seulement une lumière pour éclairer une pièce. C'est les soins, les hôpitaux, les personnes qui sont hospitalisées à domicile, la communication. Et puis l'eau potable, c'est tout simplement la vie, et éviter aussi la propagation d'épidémies.
Alors la rentrée scolaire va avoir lieu aussi à Mayotte, dans les conditions que l'on sait, avec un problème: comment héberger les réfugiés qui viennent essentiellement des Comores, qui sont actuellement réfugiés dans les écoles, puisque les bidonvilles où ils habitaient ont été détruits. Comment faire pour pouvoir faire cette rentrée, réaliser cette rentrée dans les meilleures conditions, et que faire des Comoriens? Parce que c'est aussi l'interrogation qu'on a pu entendre dans la bouche de Marine Le Pen, qui disait que finalement le problème, c'est l'immigration. Est-ce que c'est réellement l'immigration le problème?
Aujourd'hui, effectivement, s'il n'y avait pas une immigration massive comme à Mayotte, le problème serait moindre. Aujourd'hui, il y a une telle affluence de population venue des Comores que Mayotte, qui déjà avant, pour simplement ses habitants, était dans un état de service public qui était catastrophique, avec l'immigration illégale supplémentaire, était submergée d'insécurité, de problèmes de santé, d'école, au niveau sanitaire aussi. On peut parler, comme on l'a parlé avant, des problèmes d'eau potable. Je rappelle, c'est un département français. On parle d'eau potable dans un département français en 2025.
On a laissé tomber Mayotte, selon vous?
Oui,
on a oublié ce petit bout de territoire français.
Parce qu'en général, les territoires d'outre-mer étaient pour Emmanuel Macron quelque chose qui ne l'intéressait pas, et les habitants de nos îles étaient un peu comme, en ruralité, les citoyens de seconde zone. Sauf qu'aujourd'hui, loin de la métropole, on se rend compte que les problèmes, encore une fois à cause d'un cyclone, malheureusement, sont bel et bien réels, à tel point que faut bien s'asseoir sur sa chaise. Même Daniel Cohn-Bendit a avoué qu'effectivement, il y avait un problème d'immigration massive à Mayotte et qu'il fallait régler le problème. 2025 est une sacrée année, hein. Bon, maintenant, effectivement, il faut régler le problème, c'est-à-dire qu'il faut raccompagner ces personnes dans leur territoire, et il faut être ferme, avoir une politique ferme en matière d'immigration. Nous, ce que nous proposons, c'est à l'échelle du territoire national, pas uniquement comme nos opposants sur le département de Mayotte, c'est-à-dire une politique dissuasive d'immigration, parce que la France et Mayotte ne peut plus accueillir autant de population.
Il faut rendre ces territoires, alors que ce soit ici en métropole ou là-bas à Mayotte et plus largement dans les Outre-mer, il faut rendre les territoires ou le territoire national moins attractif.
Évidemment, il faut réserver la solidarité nationale aux compatriotes et non pas à la terre entière.
Mmh. Alors, il y a Mayotte, il y a la France, il y a ces influenceurs algériens. Je voulais vous entendre là-dessus, qui, sur les réseaux, ont appelé à des actes terroristes ici en France, alors que l'on va commémorer les attentats de Charlie Hebdo, les attentats de 2015. C'est inacceptable pour vous, ces prises de position de ces influenceurs algériens. C'est aussi, quelque part, comme on a pu le lire et l'entendre un petit peu partout, une forme de déstabilisation de la France par l'Algérie.
Oui, ils en profitent. La nature a horreur du vide et je pense qu'Emmanuel Macron, avec son premier et le morceau de son deuxième quinquennat, a créé un vide, notamment avec sa position de repentance à l'égard de l'Algérie. Ce n'est pas une position qui est respectable. Je pense que nous devons avoir des relations cordiales, que nous devons avoir une équidistance. Mais cette situation de silence de nos politiques, c'est-à-dire de ceux qui sont au pouvoir, et d'inaction envers la diplomatie ou même des fois l'économie algérienne, est selon moi assez inacceptable. Voilà. Je pense que nous devons avoir une position assez ferme à l'égard de ces prises de position, et nous devons faire comprendre aux responsables politiques algériens qu'ils doivent nous respecter, et en l'occurrence, nous respecter, c'est aussi apprendre des décisions fortes quand il y a ce style de position qui se fait savoir.
Avec la position de la France autour du Sahara, évidemment, revendiquée par l'Algérie, et ce rapprochement entre Paris et Rabat et le Maroc, donc, là aussi, on n'a pas eu une diplomatie assez fine pour pouvoir jouer sur les deux tableaux, quelque part ?
Non, c'est succédé en plus de ça, sur la fin du siècle dernier et le début de ce siècle-là, des prises de position qui sont assez différentes, qui s'entrechoquent. Dans ce siècle-là, je pense qu'on nous devons avoir une position quand même très claire. On doit trancher sur certains sujets, on doit poser nos conditions aussi pour pouvoir se faire respecter et puis continuer des échanges commerciaux, diplomatiques, qui soient dans de bonnes conditions. Si on ne se fait pas respecter, quel que soit l'environnement, que ce soit le travail, que ce soit sa vie personnelle, ou que ce soit en tant qu'homme politique pour défendre son pays et ses citoyens, on n'avance à rien du tout. Et ça, je pense que le pouvoir en place ne le comprend pas. Il est dans sa petite tour d'ivoire, et en réalité, ce qui concerne les Français et le pays, les importe peu.
On voit aussi ressurgir la colère agricole. Elle était juste endormie, elle n'était pas terminée. La coordination rurale a lancé de nombreuses actions en France avec pour leitmotiv des réponses. Est-ce qu'aujourd'hui, les gouvernements successifs, depuis des années, depuis des décennies, ont fait beaucoup de promesses, alors que ce soit aux agriculteurs ou plus largement aux Françaises, aux Français, et qu'aujourd'hui, bien finalement, là encore, les agriculteurs ou les Françaises, les Français en ont un petit peu marre, si vous me permettez le terme un peu trivial, des promesses? Ils veulent de l'action.
Ils veulent de l'action. Alors, je vais leur dire quelque chose. Alors, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, mais ils ont la même ministre de l'Agriculture qu'avant le remaniement. Donc, ils vont pouvoir voir si, effectivement, la politique est différente ou non, en changeant certaines personnes qui, somme toute, faisaient également partie du précédent gouvernement, et puis d'autres personnes qui font partie de la société civile que pratiquement personne ne connaît.
On a changé les têtes, mais finalement, on a changé la même politique.
Voilà, exactement. On continue un peu la même politique, à voir si le gouvernement de M. Bayrou est un peu plus à l'écoute. Il va rencontrer les mouvements politiques dans quelques jours. Mais pour revenir aux agriculteurs, effectivement, c'est un mouvement qui était endormi. Endormi parce que les agriculteurs travaillent. Hein, cet été, ils avaient énormément de travail pour nourrir les Français. Et c'est aussi quelque chose de respectable, c'est-à-dire qu'ils ont à cœur ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire le travail d'agriculteur et de nourrir les Français. Ils ne contournent pas cela, ils le font avec beaucoup de passion et beaucoup de cœur. Mais c'est vrai que leurs difficultés sont gigantesques, c'est mon domaine de base, voilà, dans mes études, et je connais parfaitement ce milieu. On leur a fait des promesses, on leur a promis des choses et on a fait absolument l'inverse. On peut prendre l'exemple des Républicains hein, qui étaient censés être les défenseurs des agriculteurs. On a la ministre en place qui est d'origine républicaine. Eh bien, ce sont ces mêmes personnes qui soutiennent au Parlement européen la candidature de Mme von der Leyen qui appuie mordicus les traités de libre-échange qui font un mal considérable à nos agriculteurs.
Donc qui a donné son aval d'ailleurs pour la signature de ces traités du Mercosur.
Exactement. Donc cette ambivalence est assez incompréhensible et je pense que les gens en ont soupé.
Avec cette crise de l'agriculture, on a le sentiment aussi que c'est un révélateur d'une crise plus profonde ici en France, avec aussi une crise alors sociale, elle est là, on le voit avec les fermetures d'usines, avec une industrie qui a du mal à muter, on pourrait dire, ou en tout cas à faire sa mutation, et puis ces fermetures de sites, on l'a vu ici en Bretagne, on pense aux fonderies de Bretagne et à plusieurs sites qui ont fermé ici. Est-ce que on a parlé de cet hiver social, on pourrait peut-être parler du printemps puisque nous voilà qui allons vers le printemps, est-ce que l'hiver social ou le printemps social risque d'être compliqué pour le gouvernement? Et puis, question subsidiaire, est-ce que finalement le gouvernement va perdurer, puisqu'on parle des de motion de censure?
Pour le gouvernement, je ne vais pas faire de plan sur la comète parce que ça dépendra de très nombreuses décisions qui seront prises au cours de son exercice. C'est bancal, c'est certain.
On peut imaginer que le RN vote une motion de censure comme la dernière fois?
Ça dépend uniquement s'il dépasse les lignes rouges que nous avons fixées et qui sont celles du respect de nos électeurs qui nous ont donné mandat. Ça ne dépendra que de ça, pour la motion de censure. Ensuite, pour revenir aux fermetures, par exemple, d'usines, situation économique difficile, je tiens à repréciser qu'à mon échelle, voilà, je suis bénévole encore, je ne suis pas élu, mais j'analyse la situation économique, politique de notre département, de notre région. Et déjà l'année dernière, aux élections législatives, j'avais dit que les industries bretonnes, qui n'avaient jusqu'à présent connu très peu de difficultés en raison de la mondialisation sauvage et de l'ouverture de nos frontières économiques et du manque de protection économique que nos dirigeants n'ont pas fait depuis des années, eh bien, j'avais tout de même alerté sur la difficulté de nos industries et qu'au fil des mois et au fil des semaines, elles allaient rencontrer de très nombreuses difficultés. Alors effectivement, voilà, nous avons des fermetures de sites. Et je pense que si, notamment, un virage de stratégie industrielle et énergétique, parce que c'est un coût énergétique qui est un gros problème aujourd'hui en France, et une concurrence déloyale pour nos industries, qui est un gros problème, et évidemment aussi pour l'industrie agroalimentaire bretonne, la fameuse décroissance qui est soutenue par l'Union européenne et les Verts. C'est quelque chose qui impacte aujourd'hui concrètement notre économie bretonne, et sur lesquels il va falloir prendre des décisions. Alors, nous, ce que nous proposons, à chaque fois, quand on en parle, ça semble ne pas être des solutions, mais c'est pourtant du bon sens et des choses assez simples. C'est-à-dire que la protection de notre économie tous les pays du monde le font, excepté certains pays de l'Union européenne, en principal, et principalement la France. Il faut protéger notre économie, il faut soutenir notre industrie, parce que notre industrie, si elle est forte, c'est notre indépendance qui est en jeu aussi. Et un pays qui n'est pas indépendant n'est pas suffisamment puissant et ne peut pas se faire respecter dans le monde entier.
Avec des bouleversements géopolitiques, économiques, stratégiques, on pense à la Chine, on pense aussi aux États-Unis qui, dans quelques jours, vont introniser Donald Trump comme nouveau président. Il va prêter serment. Est-ce que ça peut changer aussi la donne pour nos pays, alors justement en matière économique, mais aussi en matière géostratégique, diplomatique? Est-ce qu'on peut imaginer que demain ne sera pas aujourd'hui?
Demain ne sera pas aujourd'hui, c'est certain. C'est certain parce que le monde est en mouvement et effectivement les intérêts que certains peuples ont souhaité mettre en place par le biais de leurs responsables politiques n'est absolument pas la même qu'hier. Donc effectivement, ça va certainement mettre en lumière d'autres lacunes que nos responsables politiques ont et ont eues depuis de très nombreuses années, de très nombreuses décennies. Donc effectivement, demain n'est pas aujourd'hui et n'est pas hier.
On parlait tout à l'heure des fermetures. J'avais envie de vous entendre sur l'aspect social. On voit aussi que dans le domaine, il y a beaucoup de bouleversements. On a entendu beaucoup de responsables politiques s'exprimer autour de ce travail qu'on va demander, travail gratuit pour la collectivité, à ceux qui touchent et celles qui touchent le RSA aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment ceux qui n'ont plus rien pour vivre ou très peu. Est-ce que vous imaginez que c'est une injustice ou est-ce que pour vous, il faut donner un petit peu pour la collectivité, pour recevoir ?
Ce serait une justice si le pouvoir était exemplaire. Vous rendez compte que c'est quand même ceux qui sont au pouvoir qui demandent à des gens qui ont perdu leur travail et qui n'arrivent pas à en retrouver, certainement pour beaucoup d'entre eux qui arrivent en fin de carrière parce que c'est compliqué de retrouver un emploi. Et on leur dit, bah écoutez, on a fait en sorte qu'on ferme votre usine, vous n'avez pas de travail, c'est de notre faute, on est incompétent, on est nul, mais vous allez payer les pots cassés, hein. Vous allez encore travailler quelques heures en plus à côté parce que en réalité, on s'en fiche un peu, on n'est pas capable de résoudre le problème. Moi, je pense que éventuellement, c'est discutable si l'économie va très bien, que les situations au RSA ou au chômage sont discutables, mais dans la situation actuelle de crise sociale économique du pays, je trouve ça un peu indécent.
C'est dangereux d'un point de vue social, justement. On peut imaginer le retour des gilets jaunes, par exemple, ou de
oui,
la colère.
C'est effectivement parce que c'est un peu une humiliation. Je veux dire, mettez-vous à la place de quelqu'un, je prends l'exemple de la génération de mes parents, qui perd son travail et parce que l'âge, parce que trop d'expérience, donc on ne veut pas forcément rémunérer à la hauteur de leur expérience, donc on ne les prend pas. Perdent leur travail, se retrouvent au chômage puis au RSA, et on leur dit on a fait en sorte que vous perdiez tout, vous allez payer encore les pots cassés, quoi.
C'est une double peine, en quelque sorte.
C'est une double peine, voilà. C'est une double peine pour des personnes qui n'ont pas souhaité, en réalité, cette situation.
On a beaucoup reproché au Rassemblement National de ne pas avoir voté, en tout cas c'est la gauche qui vous l'a reproché, de ne pas avoir voté par exemple l'augmentation du SMIC ou un salaire minimum. Alors on pense au fameux salaire à 1600 euros. Pourquoi le Rassemblement National n'a pas été sur ce terrain-là finalement?
Parce que ces personnes de gauche dans leur tour d'ivoire à Paris ne comprennent pas l'économie française. Voilà. S'ils font ça, ils tapent sur les Français. Ils ne leur rendent pas service. Pourquoi ? Parce que augmenter le SMIC, 90% des entreprises en France sont des TPE-PME, des petites et moyennes entreprises. Si on augmente le SMIC, on augmente les cotisations sociales à côté, et les entreprises sont déjà dans une situation assez tendue et difficile, ce qui veut dire qu'elles vont devoir choisir entre eux. Licencier certaines personnes pour pouvoir payer les autres plus cher, ou ne pas accepter en réalité cette augmentation et fermer leur entreprise parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Mmh. Nous, ce que nous proposions, c'était une augmentation de 10% du salaire sans augmentation de cotisation en corrélation avec l'augmentation du salaire. Pendant 5 ans,
d'une façon
le
à
temps
à
de
ne pas mettre
les petites entreprises voilà,
en
dans l'embarras, augmenter tout de même les revenus pendant 5 ans, le temps de redresser convenablement l'économie française. Mais ces personnes qui demandent et qui proposent l'augmentation du SMIC avec des sommes qui sont astronomiques ne se rendent pas compte du carnage qu'elles pourraient faire dans l'économie française. Mmh. Donc ça n'est pas rendre service aux Français que actuellement augmenter le SMIC d'une telle manière qu'ils l'ont proposé.
Il vaut mieux actionner sur finalement le pouvoir d'achat, c'est-à-dire faire baisser les charges que les Français doivent assumer aujourd'hui. On pense à l'électricité, même si on nous annonce une baisse de 14% sur la prochaine facture.
Tout de même augmenter de 50% en 7 ans.
Voilà. Donc est-ce qu'il faut justement travailler à long terme sur ces baisses pour pouvoir donner du pouvoir d'achat aux Français ?
Absolument. Alors je vais toujours partir sur les deux sujets, c'est-à-dire monsieur et madame tout le monde dans la vie de tous les jours. Effectivement, c'est un problème, comme l'électricité, l'énergie. Le coût de la vie est un problème et on doit travailler là-dessus, notamment avec le problème européen du marché européen de l'électricité, où nos prix de production électrique sont basés sur des conventions européennes et qui prennent en compte la dernière matière de production électrique la plus chère, qui est le gaz aujourd'hui, étant donné les conditions géopolitiques et géostratégiques, et alors que nous produisons, nous, une énergie à bas coût avec notre parc nucléaire français. Nous devons renégocier ces traités, car ça n'est pas acceptable pour les Français. Mais je vais aussi partir sur un autre plan, c'est-à-dire que quand les entreprises sont impactées par ce coût de la vie aussi, ce coût énergétique, il le répercute sur les produits. Et en finalité, qui achète ces produits ? Ce sont les Français qui l'ont acheté encore plus cher parce que le coût de l'énergie est encore plus cher. Donc en réalité, ils ont ce qu'ils ont à payer dans leur foyer, mais aussi le coût de la vie et de la production française et des biens qu'ils achètent. Donc tout ça corrélé ensemble fait qu'effectivement le pouvoir d'achat est moindre.
Donc il faut travailler là encore sur le pouvoir d'achat. Il y a des propositions en ce sens que le RN compte faire dans les temps qui viennent ?
Oui, je pense qu'on va remettre sur la table les propositions que nous avions faites sur notamment l'électricité, le gaz, la TVA que nous voulions diminuer. Mais aussi une politique, une vision, c'est-à-dire que, comme j'ai dit précédemment, on ne peut pas accepter de payer plus cher une énergie que nous produisons beaucoup moins cher, uniquement sur des raisons politiques. Ça n'est pas acceptable.
Alors la politique, justement, on s'attend à quelques bouleversements. On évoquait tout à l'heure la possible motion de censure. On entend aussi des voix qui demandent la démission d'Emmanuel Macron, essentiellement à gauche. Là aussi, le RN s'est mis un petit peu en retrait en disant « on va voir ».
Oui, on va voir. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau gouvernement. On peut lui accorder le bénéfice du doute, mais... On n'est pas là pour déstabiliser les institutions et la République. On est là pour apporter des solutions aux Français et leur rendre leur argent, leur rendre leur pays et faire en sorte qu'ils aient plus de pouvoir d'achat, de sécurité et de prospérité. On n'est pas là comme l'extrême gauche pour tout mettre à terre. Voilà, on n'est pas là pour secouer la maison et faire tomber le toit.
On a entendu l'ancien président de la République, François Hollande, dire qu'il fallait, chez nos confrères de Ouest-France, qu'il fallait que le président de la République aille finalement jusqu'à la fin de son mandat. Est-ce que c'est une forme de sagesse pour éviter de rajouter du chaos au chaos ?
Moi, je leur dis, la prochaine fois, si vous ne souhaitez pas ce chaos, que nous avions prévu d'ailleurs, puisqu'en 2022... Nous avions dit que si Marine Le Pen n'était pas élue, ce serait le chaos. C'est le cas. Économiquement, socialement, géopolitique, tout est catastrophique. Donc si vous ne voulez pas à nouveau de ce chaos, eh bien, il suffit de vous mobiliser aux prochaines élections, de faire élire des députés bretons du Rassemblement National au Palais Bourbon, de faire élire des conseillers départementaux, des maires, et puis à la maire des élections, eh bien, vous pourrez voter pour la candidature du Rassemblement National aux élections présidentielles de 2027.
Voilà, candidature qui sera peut-être bouleversée avec le procès de Marine Le Pen, en tout cas le verdict du procès.
Procès politique.
De Marine Le Pen.
Procès politique.
Qui peut changer les choses finalement. On imagine Jordan Bardella prendre la place de Marine Le Pen si elle était empêchée.
Je ne pense pas qu'une décision, la pire des décisions qu'on imagine puisse être prise, puisque en réalité, ce tribunal était. Était une véritable pitrerie, y compris dans les prises de position de certains, qui admettaient qu'ils n'avaient aucune preuve, mais que relaxer certaines personnes, ça leur faisait mal. Voilà, donc on va dire qu'au niveau impartialité de la justice, on peut revenir dessus.
On a même entendu François Bayrou quelque part, je vais peut-être prendre des mots assez forts, mais prendre la défense de Marine Le Pen.
Oui, parce que je pense que malgré tout, ce personnage politique que l'on connaît depuis des années est respectueux de la démocratie, est respectueux des élus, des institutions, et je pense que, comme Marine, lorsqu'il a des principes, il les applique aussi aux autres. En ce sens, oui, il a effectivement soutenu notre mouvement, alors qu'il ne partage absolument aucune de nos idées, ou certaines, hein, comme la proportionnelle. Mais effectivement, il a eu un moment d'honnêteté, et beaucoup l'ont fait, et également certains ministres d'Emmanuel Macron l'ont fait. Donc je pense qu'une décision dramatique ne sera pas rendue dans quelques mois.
Un petit mot aussi sur le top 50 des personnalités préférées des Français. Chaque année, il y a ce palmarès qui paraît dans la presse et dont les radios et les télévisions se font écho. C'est toujours Jean-Jacques Goldman qui est le personnage préféré des Français, suivi par Omar Sy ou encore Teddy Riner, avec l'arrivée de Léon Marchand en 5e place. Et à la 10e place, Jordan Bardella, et à la 11e, Marine Le Pen. Ça, c'est nouveau.
C'est nouveau, je pense qu'au fil du temps, les personnes et les citoyens observent et voient qui sont réellement Jordan et Marine, au-delà de toutes les caricatures qu'on a pu faire de nous et des véhémences qui sont proférées à notre égard, surtout par l'extrême gauche. Je pense que les Français observent de plus en plus notre solidité, notre constance, notre franchise. Je pense que ça plaît aux Français par rapport à ces nombreuses années et décennies d'errements politiques et de mensonges.
Là, ça peut être auguré de certaines choses pour les élections, par exemple.
Oui, bien sûr, je pense.
Antoine Kiffer, responsable du Rassemblement National de la circonscription de Dinan, était avec nous en ce lundi matin pour commenter l'actualité politique. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et je
vous
souhaite une très belle journée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.